Salut et bienvenue sur le podcast d'Expat Families. Aujourd'hui, on retrouve Hélène au micro. Elle avait été l'invitée de notre épisode 10, dans lequel elle nous partageait son immigration et son accouchement en Corée du Sud. Alors aujourd'hui, je trouvais ça super intéressant qu'elle revienne pour nous parler de son accouchement en maison de naissance, ainsi que son allaitement en tandem. Je vous souhaite une excellente écoute et je vous laisse avec la suite. Bonjour Hélène.
Bonjour.
Merci de revenir sur ce podcast. Ça me fait très plaisir de te recevoir encore pour un sequel. On avait fait un épisode ensemble, c'était l'épisode 10, où à l'époque, tu avais un petit garçon. Et depuis un an, je t'avouerai que ni l'une ni l'autre, on n'a pas chômé. On s'est rajouté un peu de challenge mutuellement. D'ailleurs, je crois, si j'ai fait le calcul, tu es à 21 mois d'écart entre tes deux enfants.
Ouais, mais je crois qu'on a le même
que 20.
Ah, tu me bats, ça y est, c'est plus difficile pour toi.
Non, alors pour ceux qui ne savent pas de quoi on parle, je vais me permettre de te présenter, parce que comme ça on va un peu changer pour les sequels. Donc, si je peux résumer l'épisode 10, tu t'appelles Hélène, tu habites en Corée du Sud avec ton mari qui est coréen. Vous avez un petit Luca ensemble qui doit avoir un petit peu plus de 2 ans.
Ouais, 2 ans et demi.
Et plus récemment, une petite Louane qui a pointé sur le bout de son nez. Et je crois que tu as un chat, de mémoire.
Waouh. Ouais, elle a un chat aussi.
En fait, j'épie ta vie. Non, en fait, ce qui est vraiment cool quand même avec ce podcast, c'est que ça fait quand même plus d'un an qu'on avait enregistré et que d'ailleurs Hélène nous avait mis en relation et qu'on a quand même gardé contact et voilà, qu'on a suivi nos périples.
Nos périples perso. En temps parallèle, effectivement.
À quelques continents, voilà. On se suit quand même beaucoup, donc c'est quand même vachement rigolo. Écoute, j'aimerais bien pour démarrer cet épisode, maintenant que j'ai fait une entrée en matière, est-ce que donc pour commencer cet épisode, on peut refaire un peu un bilan de ta grossesse et de ton accouchement avec Luca? Par exemple, qu'est-ce qui t'avait plu? Qu'est-ce qui t'avait déplu? De mémoire, par exemple, pour le suivi de la grossesse, tu trouvais que c'était beaucoup trop suivi à faire des échos tous les 2-3 jours. Est-ce que tu as fait, par exemple, est-ce que tu as eu la même chose du coup pour Luan? Comment ça s'est passé?
Alors, j'ai eu deux choses complètement opposées. Enfin, dans ma grossesse, moi, en tant que maman, je les ai vécues de manière plutôt similaire. C'est-à-dire, j'ai eu aucun symptôme, j'ai pris plus de 20 kilos, j'étais énorme très vite, mais en dehors de ça, pas de symptômes. Après, la façon dont j'ai suivi, effectivement, c'était très différent. C'est-à-dire que, avec Luca, déjà, c'était ma première grossesse. En plus, j'étais à l'étranger, donc j'ai un petit peu suivi le move, quoi. J'ai un peu suivi ce qui se faisait, ce que les autres mamans faisaient. Donc effectivement, j'ai pas trop questionné les choses. C'est-à-dire, quand j'allais voir un médecin, j'ai fait mon test, j'ai tout de suite été voir un médecin. Quand le médecin il me dit, on voit pas, faut qu'on revienne la semaine prochaine. Si un médecin me dit, on revient la semaine prochaine, je reviens la semaine d'après, quoi.
Oui.
C'est-à-dire que moi, je suis française. Si un médecin me dit de venir, je viens, je considère que c'est qu'il faut. En fait, il faut. En Corée, les hôpitaux, c'est des entreprises qui demandent de venir, c'est venez faire du chiffre, revenez.
Oui.
C'est pas forcément toujours nécessaire. Donc, j'ai un petit peu changé ma perspective là-dessus. Donc, effectivement, gros suivi. Après, de là à dire que ça m'a déplu, pas forcément. Comme je disais, c'était ma première grossesse, c'était peut-être pas plus mal, ça me fait des beaux souvenirs, mais je savais que je voulais pas la même chose après. C'est tout ça.
Oui.
L'accouchement, en fait, j'étais même avec Luca, j'avais eu l'idée de faire un accouchement en maison de naissance, voire même à domicile. J'avais déjà suggéré l'idée à mon mari, et en fait, je me sentais peut-être pas totalement assez prête parce que est-ce que je serais vraiment capable, sachant que j'avais jamais vécu d'accouchement. C'était aussi tout très loin et du coup, ça m'angoissait un peu. Du coup, j'avais un petit peu abandonné et j'avais fait un accouchement en hôpital. Pour femme classique.
Oui, pour Luca.
Voilà, pour Luca. C'était pas une super expérience, c'était pas une mauvaise expérience non plus. C'est pas été un accouchement traumatique, mais je savais pertinemment que je voulais pas la même chose. C'était long et en fait, le plus dérangeant, c'est qu'en fait, je devais un peu batailler tout le long. C'est-à-dire que j'ai eu un médecin bien qui a Enfin, j'avais fait un plan de naissance, ce que d'ailleurs au passage je recommande à toute maman de faire, surtout quand on est à l'étranger, faire un plan de naissance pour discuter de tout en amont. Mais voilà, donc il y a des choses sur lesquelles bah, il a fait des efforts et il y a des choses bah, en hôpital c'est juste pas possible quoi. Enfin, il y a des règles. Donc, mais j'ai tout le long dû un peu batailler, laissez-moi marcher, laissez-moi voir mon fils, laissez-moi avoir mon fils avec moi.
Me mettez pas d'hormones, bah finalement, bon, bah mettez-moi des hormones. Enfin,
ouais, bon, voilà, mais ça a été un petit peu une bataille tout le long. Après, si, mais j'ai pas envie de lui donner du lait en poudre, laissez-moi allaiter. Ouais, mais vous êtes fatigué, mais laissez-moi faire comme je veux. Donc, c'était un peu frustrant, voilà. C'était frustrant. C'était pas traumatique ni rien, mais c'était une journée un peu frustrante et j'étais contente de rentrer après et j'avais fait le truc séjour mère-enfant, j'avais lâché.
Oui, c'est ça, pendant le premier mois de vie de Lucas.
Ouais, j'avais fait 10 jours, je crois. Enfin, à la base, j'étais censée être plus longtemps, j'avais raccourci la chose, mais voilà. Voilà. J'étais contente de rentrer chez moi, j'étais contente de pouvoir faire enfin comme je voulais, qu'on arrête de m'infantiliser, quoi. Enfin, qu'on me laisse prendre mon rôle de mère. Et voilà. Et Louane, j'étais persuadée que j'allais pas faire la même chose. Je savais. Je crois que le jour même, en fait, où j'ai accouché, j'ai regardé mon mari, je crois que j'étais encore dans les vapes et j'ai dit plus jamais à l'hôpital.
Mais alors, attends, donc, parce que quand on avait enregistré, Luca avait tout juste 1 an.
Ouais.
Et alors, quelques semaines après, si je fais les calculs, et encore, c'est pas sûr. Tu étais déjà enceinte, en fait, de Louane quand on avait fait l'enregistrement.
J'étais enceinte, mais je pense sans le savoir, puisque je ne pense pas t'avoir menti quand je disais j'espérais un deuxième. Mais... je pense que je n'étais pas au courant, mais j'ai dû être au courant, mais genre quelques semaines après. Quoi.
Mais alors, donc, c'était ta volonté de les avoir super rapprochés ou c'est tombé, voilà, comme...
Je voulais moins de 2 ans d'écart.
Ok.
C'est-à-dire qu'on n'a jamais fait d'essai, mais on n'a jamais rien fait contre, voilà. Enfin...
Ouais. Mais c'est marrant parce que tu as quand même un parcours extrêmement similaire à celui de Aïda qui a aussi fait un accouchement en maison de naissance, mais elle aux États-Unis et qui elle aussi allaitait toujours son aîné quand elle était enceinte. Et donc en aucun cas tu t'es dit je vais essayer d'arrêter d'allaiter Luca parce que je suis enceinte, parce que les hormones, nanani, nanana.
Okay. Non, jamais. En fait, j'ai jamais eu de projet. En fait, même pour l'allaitement, j'ai jamais eu de projet. Et même tu me demanderais maintenant, j'ai pas de projet dans le temps ou de me dire je voulais allaiter les deux. J'ai jamais eu comme ça. Je me suis juste dit, je laisse comme ça se fait. Et comme j'ai pas ressenti le besoin d'arrêter et que j'avais pas médicalement le besoin d'arrêter,
Et attends, mais parce que moi c'est une question perso, parce que je sais que Aïda, par exemple, elle a dû winner son premier. Parce qu'il ne dormait pas la nuit, par exemple. Et clairement, elle ne se voyait pas se gérer sa grossesse.
Lucas, je crois qu'il faisait ses nuits à 7-8 mois à peu près.
Voilà, donc un message d'espoir. Je pense que ça aide d'avoir un aîné qui dort.
Ouais, non, mais c'est par rapport à l'allaitement, mais pas que. Je pense que je ne me serais peut-être pas sentie d'avoir un deuxième tout de suite. Je n'avais pas
un peu de sommeil.
Ouais. Ouais, non mais puis d'être sûr que tu t'as pas les deux qui se réveillent en même temps, quoi. Surtout si les deux ils sont allaités, t'imagines, effectivement. Je peux pas me réveiller pour un. Ça veut dire que tu peux même pas avoir le papa qui rendort l'autre, quoi.
Ouais.
Donc ça c'était. Non, Luca il faisait ses nuits très bien, très tôt, donc. C'était pas un souci.
Et donc cette deuxième grossesse se présente. Donc du coup, qu'est-ce que tu as en tête? Tu te dis, ok, est-ce que je vais avoir mon photo album comme Luca avec toutes mes échos, ou est-ce que donc du coup, je sais que c'est une industrie un peu foireuse, je vais pas venir à tous les rendez-vous.
Alors déjà, premier truc, je fais mon test. J'ai pas fait 30 000 tests à chaque fois. J'ai vraiment fait un test quand j'avais plus de une semaine d'écart de retard, donc j'étais quasiment sûre déjà. Je fais mon test et pareil, j'ai pas tout de suite couru à l'hôpital. Je me suis dit, bon, attends, là, on doit être à 4-5 semaines. Ça sert à rien. On verra rien.
Ouais.
Alors, on ira genre à 7-8 semaines, là où on a un cœur. Ça sert à rien d'y aller avant.
Non, c'est clair.
Et voilà, j'ai pris mon temps. Et après, j'ai directement dit à mon médecin, j'ai été au même hôpital où j'avais fait mon suivi et mon accouchement de Luca. Et je lui ai dit, voilà, on va être clair, je vais pas accoucher ici. Et autre chose, je veux les échographies strictement nécessaires. Voilà.
Ouais.
Je l'ai prévenu dès le début.
Ouais, ouais.
Bah, c'est-à-dire que je l'ai prévenu dès le début et je lui ai dit, de toute façon, s'il y en a trop, je viens pas, quoi. Donc, et puis, à chaque fois, je négociais un peu. Je veux dire, à chaque fois, il me disait, bon, bah, revenez dans 2 semaines. C'est vraiment nécessaire dans 2 semaines. Dans 3, ça irait peut-être pas. Mmh. Et puis, voilà.
Mais parce que, en plus, t'étais en plein pendant la période Covid. Enfin, exactement. Je pense que la Corée du Sud, elle a quand même mieux géré que certaines autres parties du globe.
Bah, mais elle bon, a mieux géré, mais parce que aussi c'était très strict, et ce qui fait que ça a juste rajouté. C'est-à-dire que déjà de base, quand on se parlait, je te disais que j'avais pas envie du même suivi, mais là, c'était en plus, je pouvais y aller que seule à aux échographies, oui. Je pouvais pas y aller avec mon mari, donc il y a rien de très fun.
Non, c'est clair.
Fallait que du coup j'y aille avec Luca. Luca, il était obligé de porter un masque parce que même les enfants doivent porter un masque. Il y a à peine un an. Enfin, ouais, clairement, c'était pas fun du tout. Fallait remplir plein de papiers avant de pour, à quelle heure t'étais rentrée et tout. Donc clairement, ça me donnait encore moins envie d'y aller souvent.
Ouais.
Donc ouais, j'ai vraiment fait le minimum de chez minimum. Je crois que j'ai dû avoir 4 ou 5 échographies. Enfin, j'ai vraiment fait celles, les morphologiques qui sont nécessaires.
Ok.
Mais voilà,
oh, donc je pense que ça doit être 2 ou 3 à tout casser.
Ouais, il y en a peut-être plus en Corée parce qu'ils ne font pas la prise de sang. Pour la... Ils font un battement de cœur pour valider la grossesse ou des trucs comme ça.
D'accord.
Bon.
Et donc, alors, comment... parce que donc du coup, pour Luca, tu avais en tête de potentiellement accoucher à la maison ou en maison de naissance, mais tu ne t'en sentais pas nécessairement capable. Mmh. Donc là, tu dis à ton gynéco, ok, mon loulou, je ne serai pas dans ton hôpital. Mmh. Donc, est-ce que tu avais cherché en amont, du coup, des maisons de naissance ou est-ce que tu t'orientais ouais. plus pour accoucher à la maison, du coup ? Comment ça s'est passé ?
Alors, j'ai fait un petit peu les deux. J'ai fait les recherches pour les deux. J'avais déjà fait des recherches maison de naissance, mais là, c'est pareil. La pandémie a remis pas mal de choses en question.
Ouais.
Parce que bah, y a pas mal de maisons de naissance qui, du coup, changeaient un petit peu leur...
protocole.
Leur protocole qui me convenait plus trop. Et après, moi, priorité, c'était accouchement à la maison, mais je n'ai parlé beaucoup avec mon mari et je sentais qu'il n'était pas chaud.
Voilà. Ouais.
Je sentais qu'il n'était pas chaud du tout. Alors après, certaines personnes me diront « Ouais, mais c'est ton corps, c'est toi qui accouches, c'est toi qui décides. » C'est clair que c'est moi qui décide. Et si j'avais dit « On accouche, j'accouche à la maison », il m'aurait pas dit non.
Ouais.
Mais je pense que quand tu accouches à la maison, il faut quand même que tu aies un mari à côté qui soit enfin, soutenant,
ouais, qui, tienne, oui.
qui soit dans le
qui
truc.
Soit accompagnant, ouais.
Si c'est moi qui dois le rassurer parce qu'il est angoissé, ça n'a aucun intérêt. Quoi. Donc,
c'est clair.
Voilà, donc je me suis dit, bon, ok, je vais pas forcer les choses, ça ne sert à rien. Et, mais par contre, j'ai cherché une maison de naissance. Il faut savoir déjà, des maisons de naissance, il n'y en a pas beaucoup en Corée.
Ouais.
Et après, effectivement... bah, avec la pandémie, ça compliquait les choses. Et j'avais un critère, c'est qu'il fallait que je puisse avoir Luca avec moi.
Donc, c'était une volonté de ta part qui participe à l'événement ?
Oui. J'étais pas forcément axée encore sur le fait qu'il soit là vraiment au moment même de l'accouchement. Ça, je me suis dit, ça dépendra de lui, de moi, de comment on le sent. Mais en tout cas, je voulais pouvoir l'avoir avec moi pendant la phase de travail, quoi.
D'accord.
Bah, voilà, en plus, il faut savoir que Luca, il n'a jamais été gardé.
Oui.
Je me serais sentie mal de voir, il n'ait jamais été séparé et tout. Et bon, bah, ok, je vais accoucher de ta petite sœur, je te mets chez des grands-parents pendant 2 jours, tu vois.
Ouais.
Et puis, je reviendrai avec un bébé dans les bras, quoi.
Non, c'est clair. Et moi, je me rappelle, Pierre, bah, pareil que toi, je ne l'ai jamais laissé garder avant d'accoucher d'Alice. Et. Je me rappelle, bah, en plus, j'ai été rapide et efficace. En une nuit, c'était torché. J'ai dû passer 24 heures à l'hôpital. Je me suis fait discharge. Et quand il est venu me chercher avec son père dans la voiture, il me faisait la tronche. Donc, tu vois...
Ouais. Mais moi, j'avais vraiment envie... Je m'étais dit que pour que vraiment les relations... Enfin, qu'il n'y ait pas de jalousie. Je voulais vraiment qu'il soit impliqué dans tout le processus, en fait.
Ouais.
Donc voilà, je voulais qu'il puisse être là avec nous et qu'il ne soit pas... qu'il n'ait pas le sentiment, en gros, que voilà, il y a la petite sœur qui arrive, donc tu vas devoir arrêter de téter, tu vas devoir aller chez les grands-parents, tu vois.
Oui.
Je voulais vraiment qu'il ne se sente pas qu'il soit privé de choses parce que sa petite sœur arrivait pour les avoir. Donc, ça me laissait le choix que d'une seule maison de naissance qui était à plus d'une heure et demie.
Ah ouais. Et elle était prise en charge par ta mutuelle / assurance santé locale ?
C'est en partie pris. En partie, après, ça reste bien plus onéreux qu'un hôpital classique.
Ouais. Et par rapport à accoucher chez toi ?
Moins cher que l'accouchement à domicile. Parce qu'accouchement à domicile, en fait, c'est avec les personnes d'une maison de naissance qui viennent chez toi. Donc forcément, tu payes plus.
Ok. Et alors, à quoi ça ressemble, du coup, une maison de naissance en Corée du Sud? Est-ce que il y a des sages-femmes, il n'y a pas de gynécologue? Est-ce que c'est à peu près pareil qu'aux US?
Il y a des sages-femmes, mais c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a... En fait, il n'y a quasiment plus de sages-femmes en Corée. C'est d'ailleurs pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de naissances.
Ouais.
J'avais regardé d'ailleurs, avec la crise là, qu'il y a en France sur les sages-femmes, j'ai regardé, en fait, cette année, il y a eu 23 diplômés sages-femmes.
Seulement?
Ouais. Bah, c'est un métier qui est vraiment en disparition. Et encore, la plupart de ces sages-femmes... Comme il n'y a pas assez de maisons de naissance ou d'endroits où elles peuvent vraiment faire leur rôle de sage-femme, la plupart vont juste être infirmières dans une maternité.
C'est dommage.
C'est pour ça qu'en fait, tout est très, très médicalisé parce que tout est pris en... C'est tout géré par des obstétriciens, en fait, ici, les accouchements. Enfin, si tu vas dans un hôpital classique. Donc là, non, j'étais en maison de naissance. Du coup, j'étais avec une sage-femme. Enfin, deux sages-femmes.
D'accord. Voilà. Et donc, ils ont des salles qui ressemblent à des chambres avec...
Ouais, c'est très différent. Moi, j'accouchais dans l'eau. Donc, j'étais dans un gros, énorme jacuzzi avec Lucas.
Sympa. Voilà. Ok.
Avec des petites lumières tamisées, la petite musique, tout ça. C'était... Et en fait, avec des sages-femmes qui étaient quasiment pas là.
D'accord.
Voilà. C'est-à-dire qu'en gros, je suis arrivée à 19h. Elles m'ont fait, à ma demande, un check pour voir à peu près où j'en étais. J'étais à 5, j'ai dit j'ai faim, j'ai pas mangé, j'ai pris mon mari, mon Lucas, on a été dehors au resto.
Ok.
J'ai pas beaucoup mangé à 5, je peux te dire que j'étais encore au top du top. Et puis on est rentré à la maison naissance genre à 20h30, 21h. On a tenté de mettre Lucas au lit.
À la maison de naissance, t'as essayé de le mettre au lit?
Ouais, j'ai tenté, je sais pas ce qui m'a pris. Évidemment, ça a raté, hein. Évidemment, c'était hors de question. Mais au moins, en fait, comme il s'est mis au sein, ça a accéléré les choses en version, voilà.
Parce que oui, si on te stimule le téton, je crois que ça te crée de l'ocytocine, c'est ça?
Ouais. Ça te libère de l'ocytocine, donc, et puis après, c'est aussi psychologique, c'est que quand t'as ton enfant avec toi, ça t'occupe, parce que, voilà, tu joues avec lui, t'es dans autre chose. Enfin, moi, j'étais obligée de jouer avec lui, quoi, pendant que comme je suis arrivée à la maison de naissance à 19h, toute la journée d'avant où j'étais à la maison avec Lucas, fallait bien que je gère son quotidien, quoi.
Ouais.
Alors même que j'étais en travail. Et puis, il a fallu que je joue avec lui et tout, donc ça m'a fait penser à autre chose.
C'est marrant qu'on a eu, une expérience très, très similaire. Je me rappelle encore à jouer au ballon, attends 5 secondes. Ok, ça va mieux.
Oui, moi j'ai eu un moment comme ça où j'ai dit à Lucas, en fait à la maison on n'a pas de télé, on n'a pas d'écran ni rien. Ouais. Et en fait ce jour-là, pour la première fois, Lucas a pu voir une vidéo de 5 minutes. Je lui ai dit, écoute maman, elle va prendre une douche chaude, hein. Regarde ça. Et il a eu sa première vidéo de 5 minutes.
Mais il travaillait pas du coup ton mari pendant la journée ou tu lui appelais?
Si, il travaillait. Okay. Il travaillait. En fait, le matin, je lui ai dit, écoute, tu gardes ton portable à côté de toi parce que je sens que c'est possible que je t'appelle dans la journée.
Okay.
Et en fait, ouais, ça avançait. Et puis, j'ai mis Lucas à la sieste. Donc, pareil, allaitement avant la sieste. Et alors là, ça a accéléré les choses.
Ah, tu m'étonnes.
Et là, j'ai appelé mon mari. J'ai dit, écoute, tu viens. Je voudrais bien que Lucas finisse sa sieste quand même. Mais parce que lui, il lui fallait aussi 1h30 pour rentrer à la maison.
Ouais, et après, donc, 1h30 pour aller là-bas.
Voilà, donc je savais qu'il fallait quand même que je sois à l'avance, surtout que si c'était l'heure de pointe, c'est même pire, quoi. Donc, savais que, à partir du moment où je l'appelais, il fallait compter environ 3h, voire plus, si on devait faire des arrêts.
Et puis, c'est le deuxième, donc t'as intérêt à y aller fils à fils à, quoi.
Voilà. Donc, j'ai quand même, je l'ai prévenu un peu à l'avance. On a attendu que Lucas se réveille, quand même, de la sieste. Et puis, dès qu'il s'est réveillé, on est parti, et voilà.
D'accord. Mais c'est génial. Et donc, attends, donc vous arrivez. Donc, tu me dis, t'essayes de le mettre au lit. Manifestement, il veut pas aller au lit. Donc, du coup, il finit dans le bain avec toi.
Ouais.
Et en l'espace de 2 heures, elle était...
Même pas 2 heures, parce que... Ouais, même pas 2 heures, parce que du coup, on est rentré à la maison à 20h30, maison. Ouais, dans le bain, j'ai dû passer 20-30 minutes max.
Ouais. Et alors, comment ça s'est passé, alors, du coup, cet accouchement? Parce que tu me dis que les sages-femmes te laissaient... vous laissiez seule.
C'était une demande de ma part de... que je ferais appel à elles s'il y avait besoin, quoi.
Ouais.
Donc, en fait, elles sont juste venues au moment où j'étais dans le bain, du coup, pendant les 20 dernières minutes, pour vraiment...
T'assister pour la pousser.
Quoi. Ouais. Okay. J'ai pas poussé, mais pour l'accueillir, ouais, et me la poser, puis après, pour me déplacer jusqu'au lit avec la petite, toujours avec son cordon, pour aider Lucas à couper le cordon plus tard.
Donc, c'est Lucas qui a coupé le cordon?
Oui, mais... bien après. On a laissé le cordon pendant une bonne trentaine de minutes jusqu'à ce que tous les échanges placenta soient finis.
Ouais.
J'avais le petit placenta à côté de moi, là, dans une bassine. Et puis c'est Luca qui a coupé le cordon et c'est Luca qui a fait une empreinte avec le placenta pour faire un arbre de vie. Avec le...
D'accord. Et ton mari, du coup, il n'a pas voulu être un petit peu plus acteur? C'était vraiment plus ta décision de vouloir que Luca soit un petit peu plus présent?
Non, il était avec moi dans le bain aussi. Hein. C'est lui qui me massait le bas du dos. Après, il fallait bien que quelqu'un joue et gère Luca aussi pendant que, la fin. Donc non, il était là. Après, c'était vraiment familial, quoi.
C'est trop chouette, ouais.
Et le cordon, Luca, c'est assez dur, hein, finalement. Luca, il l'a pas coupé tout seul non plus. Enfin, il y avait son papa derrière, quoi.
Ok.
Non, c'était vraiment les deux ensemble, quoi.
Ouais, mais de toute façon, tes photos que tu as partagées quand même sur Instagram parlent d'elles-mêmes et ça montre vraiment que c'était vraiment un sacré cocon familial et un événement à tous les quatre, du coup.
Ouais.
Et la rencontre alors avec les deux siblings entre Loan et Luca, comment ça s'est passé? Avec toi aussi. Hein.
Là, tu vois, je regrette justement de ne pas avoir eu tu vois, quelqu'un qui prenne des photos ou quelque chose. C'est vrai que je voulais pas pour justement rester dans le cocon, mais c'est vrai que j'ai des souvenirs en tête de la façon dont Luca a regardé Loan.
Ouais.
Et je regrette de ne pas pouvoir avoir vraiment, tu vois, figé ça.
Ouais.
Moi, pareil, c'était très différent. Avec Luca, tu sais, déjà, c'est très médical, machin. Puis après, on a très vite enlevé pour faire tout ce qui est vérifier le poids, la taille.
Oui.
Ces choses-là, ça pouvait pas attendre, quoi. C'est gravissime. Il va pas prendre 10 cm en une heure, quoi.
Ouais, c'est clair.
Voilà, mais je sais. Enfin, voilà. Ça, c'est... Et puis l'habiller, le laver, tout ça. Et là, c'était un peu différent. Avec Luca, ça a été plus progressif. Tu vois, avec Luan, ça a été très différent. Ça a tout de suite été, c'est ma fille, quoi.
Mm.
Ça a été beaucoup plus, ouais. C'était très différent, la rencontre.
Mais alors, est-ce que ça t'a réconcilié avec l'expérience que tu avais eue pour ton premier accouchement?
Alors, je dirais pas réconcilié parce que ça voudrait dire que c'était une mauvaise expérience. Mon
oui.
premier, c'était aussi un choix de ma part de finalement faire l'hôpital quand même parce que je me sentais pas prête pour le reste. Donc c'était pas non plus mais ce qui est sûr, c'est que mon premier accouchement, c'est le jour où j'ai rencontré Luca, donc je m'en souviendrai pour ça.
Oui.
Après avoir accouché de Douane, c'est différent. C'est-à-dire que je me suis vraiment même dit, oh là là, je voudrais juste avoir un troisième enfant juste pour pouvoir accoucher de nouveau.
Mais alors, c'est ce que j'allais te demander, c'est je dis bon. Du coup, ton époux ayant fait la maison de naissance, est-ce que maintenant il se sent pour la prochaine étape de le faire à la maison? Est-ce qu'on se fait un, après six quoi, je sais plus quel mot, un tricol? Comment ça
Alors, il n'y a pas de troisième enfant dans le projet. Ce serait bien trop onéreux. Mais si troisième enfant il y avait, ce qui n'est pas au projet, encore, je répète, serait à la maison. Et honnêtement, je crois même que je le ferais je ferais un unassisted.
Ok.
C'est-à-dire, soit avec la volonté de mon mari, soit j'oublie peut-être de prévenir mon mari. Oh mince, il n'y a pas le temps de faire venir quelqu'un.
Tu me diras, ça peut arriver tellement vite. Mais
c'est vrai. Mais ouais, je voudrais même plus, qu'il y ait de personnes autour, en fait.
D'accord. Bah, peut-être juste quelqu'un pour prendre une photo de la rencontre, du coup, entre
Ouais, non, mais même pas. je mets la CCTV, tu sais.
Et comment ça se passe après, du coup, le suivi juste après l'accouchement en maison de naissance? Est-ce que, parce que je me rappelle, à l'hôpital, tu restais quelques jours à l'hôpital et après, tu partais dans ce centre pour femmes qui viennent d'accoucher mois, nanani, nanana. Est-ce que c'est pareil pour...
Alors, ils ont aussi un centre mère-enfant dans la maison de naissance, donc qui est du coup un peu sur un autre format. Ils en ont un. Mais après, en fait, en maison de naissance, c'est beaucoup plus du sur-mesure. C'est-à-dire même en amont, tu peux choisir absolument tout ce que tu veux faire, que tu veux qu'il fasse à ton enfant. Si tu veux qu'il ait le vaccin, si tu veux qu'on lui fasse une prise de sang, si tu veux qu'on lui fasse le test d'huile, du sérum dans les yeux, enfin, tu choisis tout pour toi aussi. Est-ce que tu veux une échographie de rein, est-ce que tu veux machin? Donc, c'était vraiment du sur-mesure. J'avais tout un questionnaire de ce que je voulais qu'il fasse ou non.
C'est trop chouette, ouais.
Voilà, combien de temps tu restes, voilà. Et, Et moi, du coup, ouais, j'ai fait le minimum. Je fais quand même tous les tests pour Louane. Mais j'ai demandé que tout soit retardé, fait le lendemain. Donc, parce qu'il était 22h, du coup, voilà, j'ai allaité les deux. J'ai passé ma journée, ma nuit avec les deux au sein. Et puis le lendemain, je me suis dit, je vais quand même rester une journée pour me reposer un petit peu. Et puis, voilà, on est resté une journée à la maison de naissance et on est parti après.
Ouais, j'ai une question qui me vient direct en tête, qui va peut-être te paraître un peu idiote. Mais est-ce que donc, du coup, étant donné que tu as allaité déjà pendant toute ta grossesse, est-ce que tu as une montée de lait ou
ouais,
pas?
Mais c'est fait plus rapidement. Oui, c'est parce que pendant ma grossesse, en fait, au bout de 4 ou 5 mois, j'avais quasiment plus de lait.
Mais
parce
comment que tu nourris ce pauvre local alors?
Bah, tu le nourris pas, mais tu le nourris pas, mais bah, t'as un petit peu, mais t'as quasiment plus rien. C'est-à-dire qu'en gros, il prenait le sein plus pour tout ce qui est affectif, relationnel et tout.
Oui.
Et après, à côté de ça, il buvait du lait qu'avant, il ne buvait pas.
D'accord. Et après, c'est revenu et du coup...
Donc voilà, quand il y a eu de nouveau le colostrum qui est arrivé à la fin de grossesse, Luca était à fond au sein. Et après, ouais, j'ai eu une montée de lait, vraiment. Et ça, mais par contre, ça s'est fait beaucoup, beaucoup plus rapidement.
Ok.
Puisque forcément, t'as un toddler qui active tout ça, qui stimule.
Mais alors, donc du coup, c'est lui qui récupère le colostrum et c'est pas Louane. Parce que je pensais que le colostrum, c'était quand même essentiel pour
Louane. Je mettais toujours Louane au sein en premier.
D'accord.
C'est-à-dire d'abord, les premiers jours, je mettais toujours Louane en premier et Louane et Luca après, derrière, comme ça, en plus, ça t'évite, tu sais, les fuites. J'ai eu aucun. Enfin, tu vois, Luca, en fait, je l'utilisais pour réguler mon flux et voilà, c'est ça.
Je vois. Mais alors.
C'est-à-dire que voilà. Parfois, je disais, Luca, t'as pas envie de téter, là, j'ai un sein un peu lourd, là.
Mais... En vrai, ça dépanne pas mal, hein. Parce que quand le nouveau-né, il dort actif. Pendant une heure
exactement.
De plus, c'est parfait.
C'est bien plus actif, bien mieux qu'un tire-lait. C'est mon tire-lait personnel.
Bah, tu m'étonnes. Mais alors, attends. Moi, j'essaie de comprendre surtout. Alors, attends. On va y aller étape par étape. Parce que, donc, déjà, Louane, est arrivée dans ce monde. Elle l'a prise au sein, elle n'a eu pas de problème particulier, ça a été directement extrêmement naturel. Enfin, je veux dire, il n'y a pas eu de complications particulières.
Rien du tout. Elle est née, du coup, on a coupé le cordon, on l'a mise au sein et
voilà. Et allez-y, mon coco. Ok.
Voilà, ça arrive direct.
Mais alors, du coup, moi, la question quand même qui me vient en tête, c'est genre, comment ça marche, je veux dire, techniquement, comment ça marche? Parce que je sais par expérience, par exemple, que moi, j'ai toujours un sein qui était un petit peu plus...
Productif que l'autre.
Ouais, exactement, plus productif que l'autre. Et donc, du coup, comment ça se passe? Est-ce que tu mets Louane sur le sein qui est plus productif ou est-ce que tu mets Luca? Est-ce que tu les mets les deux en même temps?
Tu évites surtout de mettre toujours le même enfant au même sein. C'est pas la meilleure position à avoir. En fait, on te recommande normalement vraiment les premières semaines de faire attention à normalement mettre un enfant en premier et le deuxième après. Enfin, et toujours commencer par le plus jeune pour être sûr qu'il y ait de la colostrum, la prise de poids, tout ça.
Oui.
Ça, c'est dans les faits. Après, moi, Louane, effectivement, j'ai fait très attention les premiers jours de colostrum à la mettre en premier. Après, Louane, elle a pris très, 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 très vite du poids. Elle a fait une courbe, elle était dans les 100% très vite. Ça fait taire les mauvaises langues, y compris médecins qui me disaient que j'allais affamer mon enfant.
Ouais.
Mais du coup, j'ai arrêté de me poser des questions, en fait. C'est juste qui veut téter, qui veut.
La cantine est ouverte.
Mais voilà, en fait, je me pose pas de questions de quel sein prend, qui prend en premier et tout. Il y en a un qui veut téter, ok, quel sein j'ai le plus lourd, je le mets là et puis c'est fini.
D'accord. Mais alors, donc, du coup, tu peux mettre les deux en même temps?
Oui.
Waouh. Mais alors, comment ça marche? Mais sur quelle position tu es, du coup? Parce que j'imagine que Luca est en plus grand, en taille.
Il tête comme il veut, oui. C'est-à-dire que je m'assois, soit j'ai Louane devant moi. Enfin, je ne sais pas ce que c'est comme ma position. C'est quoi? C'est la madone?
Oh, j'en ai aucune idée.
Je sais pas, il y a des termes. Enfin, en gros, tu l'as devant toi, dans tes mains, soit en position genre ballon de rugby, c'est-à-dire que tu la mets, et du coup, Luca, il tête l'autre sein, il s'assoit à côté, assis ou accroupi.
Ok. Et donc, tu n'alternes pas, du coup, quand t'as les deux en même temps?
En fait, j'ai jamais alterné, même avec Luca. D'accord. J'ai toujours allaité que d'un sein.
Ok.
Même quand j'avais que Luca, il a toujours tété qu'un sein. J'ai jamais eu besoin des deux.
C'est donc marrant, ça. Donc, du coup, t'as jamais eu genre mal sur l'un si l'autre n'est pas sollicité?
Non.
C'est marrant. Bah, good for you, hein. Parce que...
Non, mais enfin, je veux dire, tu vas. J'alterne, quoi. Mais je veux dire, quand j'ai une session, il n'alterne pas de ça. Mais genre, j'alterne d'une session à l'autre.
D'accord.
Et là, du coup, j'ai même pas besoin d'alterner d'une session à l'autre. C'est-à-dire qu'une fois, c'est Luca qui prend gauche et Loane droit, et après, en inverse, quoi.
Ok. Et lui, comment il a réagi, du coup, au fait de devoir partager son...
Très bien. Très ouais. bien. Très bien, parce que même, c'était même lui, si Loane, elle se réveillait et qu'elle chouinait un petit peu, les tout premiers jours, j'avais pas un coussin vêtement, mais j'avais un petit coussin pour pouvoir la positionner pour que lui puisse téter en même temps s'il voulait. Et il venait, il me disait, Loane, tétée, Loane, tétée. Et puis, il prenait le coussin et puis il me l'amenait et puis il me montrait Loane. Et vas-y, vas-y, maman, allaite.
C'est trop mignon. Non, mais... Parce que, donc du coup, ça m'en revient quand même à mon point ultime qui est quand même, la Corée du Sud n'est pas connue pour être un pays extrêmement pro-allaitement. Mmh. Et même, tu me diras, même en France, hein, je veux dire, les gens peuvent te regarder avec des yeux genre, mais what the F quoi, qu'est-ce qu'elle est en train de nous faire pour toutes ces mauvaises langues, est-ce que, enfin, je veux dire, est-ce qu'on est d'accord que Luca ne va pas devenir un pervers sexuel parce que... Parce qu'il est encore à ton sein à l'âge de 2 ans.
Non.
Et qu'il n'y a aucune aminosité avec sa petite sœur parce qu'ils doivent partager un téton.
Bah, au contraire, puisque j'ai pas dû lui dire d'arrêter parce que pour le donner à sa petite sœur, donc du coup il n'y a aucune jalousie, aucune.
Ok.
Non, il a. Et puis après, Luca, il a un âge où.
Oui, il te sollicite 3 fois par jour, non?
Ça dépend. C'est-à-dire qu'il y a des fois où, si on est dehors. En fait, Luca, il n'aime pas t'être en extérieur. C'est-à-dire maintenant, comme c'est son moment à lui, c'est quand on est à la maison, tranquille, tous les deux, quoi.
Ouais, son confort.
Donc, si on est dehors, il va t'être peut-être une fois la journée, le soir, avant de dormir. Et puis le lendemain, il suffit qu'il soit de mauvaise humeur ou que. Voilà, il va peut-être me demander 8 fois dans la journée. Mais après, il a un âge où je peux aussi lui dire, pas maintenant, là j'ai autre chose à faire, ou alors limiter, je dis ok, mais alors 2 minutes, et puis après je lui dis bon, on arrête maintenant, enfin voilà, je veux dire, c'est dans la négociation, j'ai pas besoin du sein, quoi.
Non, mais parce que quand tu penses à l'allaitement aussi, tu te dis mais what, parce que tu te dis oh, mais il faut qu'elle allaite toutes les 3 heures, parce que tu t'imagines toujours un bébé en fait quand tu penses à l'allaitement, alors que un toddler. Voilà, il boit du lait le matin et le soir, ou peut-être juste avant la sieste pour l'endormir, oui. Mais je veux dire...
Oui, voilà, mais c'est vraiment... Enfin, en fait, son âge-là, c'est beaucoup moins nourricier qu'autre chose, c'est plus pour son immunité. Enfin, il faut savoir que Luca, il n'est pas tombé une seule fois malade. Il a 2 ans et demi, il n'a jamais eu une fièvre, hein, jamais un œil qui coule, quoi.
Ça, c'est chouette, très très chouette.
Il a eu ses dents, il a eu ses vaccins, même rien, aucune réaction à rien. Enfin, il n'a jamais rien eu.
Mm.
Voilà, donc c'est plus ça, et après je pense que c'est tout ce qui est dans le enfin ça l'apaise, dire que moi on me parle de terrible tout et tout, alors après je touche du bois, hein, ça se trouve ça va me tomber dessus dans un mois, et là je dirais non, qu'est-ce que j'ai dit, tu vois,
mais trop montage.
Voilà, dans ce cas, tu vois, je t'appellerai, je te dirais surtout coupe ça, parce que je crois que c'est vrai, mais j'ai jamais eu de crise ou quoi, parce qu'en fait tu sais, les table two, là, le moment où ils sont en mode où leur cerveau il est en ébullition et où ils veulent que tu restes avec eux, mais ils veulent pas que tu les touches et ils crient ou tout ce que tu veux.
Ouais.
Mais j'ai jamais eu ça avec Luca parce que quand il est dans une frustration ou quelque chose, il arrive et me dit tété. Et alors je le mets au sein de 2 secondes, mais vraiment, ça dure quoi?
Et ça
même pas 30 secondes. Même pas 30 secondes et c'est bon, il a apaisé et après je peux lui demander qu'est-ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui se passe?
C'est chouette.
Mais tout de suite, c'est. Oh, voilà, ça calme les choses, quoi.
Ok. Du coup, quand tu étais en maison de naissance ou même quand tu es rentrée chez toi, est-ce que les gens te regardaient avec des yeux ronds, genre, mais pourquoi elle s'inflige déjà un allaitement d'un nourrisson et en plus d'un petit garçon, quoi?
Bon, en fait, paradoxalement, alors je sais pas si c'est moi qui prête moins attention, mais je crois qu'il y a moins de choses qui se disent maintenant que j'en allaite 2 que quand avant j'allaitais seulement Luca qui était plus âgé.
Ah ouais?
Je pense qu'en fait, ça, tu vois, quand il y avait Luca qui était plus âgé et que je l'allaitais encore, il y avait plein de commentaires. Il a plus besoin, machin. Il est trop vieux, tout ce que tu veux. Enfin, le truc habituel. Et en fait, je crois qu'en fait, je sais pas, je crois qu'en fait, là maintenant, c'est tellement gros, le fait que j'en allaitais 2, qu'ils disent, oh,
c'est une cause perdue.
Voilà, c'est une cause. Qu'est-ce que tu veux qu'on... Ça leur rabat le caca, qu'est-ce que tu veux qu'on dise, quoi?
Mais c'est surtout que je comprends pas pourquoi il y a un jugement à porter, en fait, de base, d'emblée, sur toi qui allais être Luca, même s'il a 2 ans, quoi.
Bah, surtout que, comme dit, en plus, je l'allais jamais face à eux, c'est même pas parce que moi je veux pas, c'est que Luca, s'il y a par exemple même des gens chez nous, il demandera jamais à téter. Ou alors il va me tirer par la main et m'amener quelque part, mais en général, non. Donc, je veux dire, en plus, ils ont même pas besoin de le voir, tu vois.
Ouais. Non, mais après, c'est son confort aussi à lui, quoi. Donc,
Mais ce qui fait qu'en fait, j'en fais pas vraiment état, quoi. Enfin, je veux dire, il y a beaucoup de gens, à mon avis, qui ne savent pas. C'est pour ça, en fait, que ça facilite les commentaires aussi, tu vois, parce que quand il y avait que Luca qui était allaité, si par exemple, après un verre de vin, je disais non, parce que, à cause de l'allaitement, les gens me disaient, mais quel allaitement, Luca? Et puis, ils étaient, voilà. Maintenant, j'ai l'excuse, entre guillemets, de Luan. C'est-à-dire qu'en gros, je parle de l'allaitement, ils me disent, ok, c'est à cause de Luan, mais en fait, il y a Luca aussi, mais ça, ils le savent pas, quoi.
Et là, alors, du coup, aujourd'hui, en détoudé, comment ça se passe à la maison? Donc, j'imagine que tu allaites toujours les deux.
Ouais.
Et comment se porte alors notre petite Louane?
Petite Louane. Oh. Petite Louane qui, à 6 mois, faisait 10 kilos. Bah, écoute, Louane, elle a 8 mois. Elle est diversifiée, mais elle est toujours allaitée. Elle mange énormément. Et puis elle fait sa vie. Et puis Luca pareil, toujours allaité. Et puis ça dépend. Un jour un petit peu, un jour beaucoup. Voilà.
Ouais.
C'est-à-dire chaque jour est différent.
Et donc j'imagine aussi que ton mari, comme pour Luca, n'avait pas pu prendre de congé.
Il a pris quelques jours.
Okay. On était sur 2 ou 3, je crois, de mémoire pour Luca.
Ça a changé depuis. Ils ont passé une loi qu'il y a 10 jours qui peuvent être pris en 2 fois. Alors 10 jours, c'est énorme pour les courriers. Qui peuvent être pris en 2 fois. Sauf que, en fait, c'est quand même mal vu de les prendre dans certains trucs. Et après, mon mari, avec le boulot qu'il fait, en fait, ne peut pas faire ça. Mm. C'est-à-dire qu'il peut pas prendre. Il y a personne pour remplacer ni rien. Et, ou alors, au pire des cas, il prendra 2 jours. Enfin, s'il prend 10 jours, il se retrouvera après à travailler 10 jours où il reviendra quasiment pas à la maison avant l'aube parce qu'il faudra qu'il rattrape, quoi. Donc, il n'y avait aucun intérêt.
Mais alors, attends, parce que moi, je sais que beaucoup de gens me demandent à chaque fois, mais comment tu arrives à gérer les deux en même temps à la maison? Ce au quoi je réponds souvent, j'ai de l'aide avec mon mari qui, moi, travaille depuis la maison. Mais alors, toi, on est quand même sur un autre level.
Mais en fait, honnêtement, je vais te dire, je pense que les premiers jours sont pas les plus durs. Enfin, après, ça dépend de toi, la maman, dans quelle forme physique tu es, tu vois. Moi, l'accouchement s'est très bien passé, j'étais nickel. Mais finalement, les premiers jours sont plus simples parce que, enfin, les premières semaines, je veux dire, elle tète beaucoup, mais il n'y a pas encore vraiment de schedule pour les nappes,
pour les siestes.
Ils dorment très bien en portage. Ils sont pas très lourds, alors tu les mets en portage. Ce qui fait qu'en fait, je la mettais dans le porte-bébé et on allait dehors. Je jouais avec Luca. Ouais. Quand elle avait envie de téter, t'étais dans le porte-bébé. Voilà. C'est-à-dire qu'elle suivait. En fait, on gardait le rythme plus ou moins de Luca et Luan, en fait, elle suivait, quoi.
Elle s'adapte. Donc, c'était... Ouais.
À ce moment-là, en fait, c'était pas compliqué. C'est, peut-être plus tard, là, 5-6 mois. C'est là que ça devient compliqué. Pour moi, oui, parce que c'est là où Luan, elle commence vraiment à avoir besoin d'un rythme. Elle a un rythme plus précis. Elle va pas dormir pareil si elle dort dehors. Enfin, c'est-à-dire à la maison, elle va faire une sieste de 2 heures. Si on est dehors, elle va dormir à peine 30 minutes. Elle va moins bien téter à l'extérieur aussi parce qu'il y a trop de stimuli. Donc, voilà. Donc après, quand t'as Luca qui a une sieste, Luan a 2, c'est jongler. Elle est diversifiée aussi, donc, faut cuisiner, tout ça. Tu vois,
tu le vends pas très bien hein, pour le reste.
Je le changerais pas. Si j'avais le choix, je pourrais amener Luca à la crèche. Je le fais pas, c'est bien que ça me convient comme ça. Ce que je veux dire, c'est que on pense souvent que c'est après la naissance, Alors qu'en fait, pour moi, c'était entre guillemets easy à la naissance. C'est après.
Après, je pense que ça dépend aussi vraiment encore une fois de la personnalité de ton aîné.
Ouais.
Je pense qu'on a eu de la chance toutes les deux d'avoir eu un petit garçon qui était genre super content de...
Bah, qui tombe en amour de la petite sœur.
Ouais, voilà, ouais, et qu'il soit quand même super simple.
Ouais.
Moi, je pense qu'il m'a fait, la tronche peut-être 3-4 jours. Et après, bah, c'est... Après, je pense que c'est l'écart d'âge, hein, parce que mine de rien, quand ils ont moins de 2 ans, je pense qu'ils captent pas non plus trop... Tu vois, ils ont pas d'expectation, c'est genre leur vie, c'est leur vie à oui. l'instant T. Et je pense que quand une fois qu'elle est là, ils se disent pas « Oh, quelle était ma vie avant ?» ou « Quelle sera ma oui. vie après ?» C'est genre « Non, ma vie maintenant, c'est avec ma sœur. »
Oui, et puis tant qu'ils ont leur maman à manger sur la table et leur doudou.
Oui, c'est ça, et des câlins.
Tant qu'ils ont ce qu'ils ont, ils ont pas de raison de comparer ouais. avec ce qu'aurait été leur vie sans, quoi.
C'est pour ça que je me dis un peu plus tard, peut-être que c'est un petit peu plus chaud hein, quand ils sont avancés, plus de 2 ans.
Bah écoute, tu testes, tu me diras. Tu en feras 3e et tu me diras. Tu veux pas faire la cobaye ?
Non. Là, j'ai donné, je vais me... Mais je vais me reposer, je pense.
Ouais.
Et on verra. On réassessera un 3e ou alors on prendra un chien. On verra.
Ça, à mon avis, c'est plus de boulot qu'un...
Tu penses que c'est plus de boulot ? Oh, je sais pas. Un chien, ça dort la nuit, quoi.
Ouais, mais quand c'est bruyant, c'est bruyant.
C'est vrai. Bah, tu me diras, un enfant, c'est pareil. Hein. La prochaine étape, c'est pas une vasectomie, et là, il est pas très chaud. Donc...
on a le même discussion avec mon mari.
Ah, tu vois. Et donc, du coup, lui, pour ou contre la vasectomie ?
Ah bah, lui, en fait, c'est, dans les faits, c'est pour, mais ça fait des mois que je lui dis « Bon, tu prends un rendez-vous ou pas ?»
Bon.
Donc,
ouais, bon, c'est... Bref.
Un mec, quoi.
Ouais. Et est-ce que, du coup, pour terminer ce quoi, est-ce que tu aurais des conseils à offrir à des mamans qui, comme toi, souhaiteraient allaiter leur enfant en tandem ?
S'informer. Après, s'écouter. En fait, c'est juste s'écouter. C'est-à-dire ne pas se faire des projets parce que tu sais jamais. Certains enfants peuvent se sevrer pendant la grossesse.
Ouais.
Certains autres vont se sevrer après parce qu'il y a juste à la naissance. D'autres vont redoubler d'allaitement après parce qu'ils veulent être doublement sain. Tu peux pas prévoir. Donc, c'est juste suivre le move, s'informer. Faire quand même attention si tu tombes enceinte pendant la première année de vie de ton enfant. Parce que, avec ta lactation qui baisse pendant la première année de vie, si t'es enceinte à ce moment-là, faut quand même peut-être supplémenter.
Oh, je vois ce que tu veux dire, oui. Parce que le changement hormonal, ça peut. Ouais, ça affecte nécessairement ton lait, c'est ça ?
Ça affecte le lait, ça affecte ta lactation. C'est-à-dire que moi, ça a été. Je pense que d'ailleurs, psychologiquement, c'est certainement pour ça que je suis tombée enceinte juste au 1 an de Lucas. Parce que même si on n'a rien fait pour éviter, j'avais en tête de me dire si je tombe enceinte avant si 1 an, il faudra que je puisse garder un œil sur ses couches, ses choses comme ça, être sûr qu'il est assez. Et peut-être devoir complémenter. Puisque forcément, une grossesse affecte ta lactation. Donc, juste faire ça pendant ta première année de vie. Mais sinon, après, c'est juste suivre le move et pas faire de projet sur la comète, quoi. Juste voir, discuter avec ton enfant. Pas mal expliquer à ton enfant. Moi, j'avais un livre pour expliquer à Lucas qu'il allait faire.
Mais oui, il y a des livres en français sur... Merci. Je me suis toujours posé la question et j'ai jamais regardé sur la FNAC. Il y a des livres qui expliquent qui parlent d'allaitement.
Voilà, pour trouver un livre où il n'y a pas des biberons, des sucettes et des doudous, c'est déjà compliqué. J'ai trouvé une petite illustratrice qui vendait ces trucs sur, je sais pas si c'était GoFundMe, enfin un truc du genre, ouais. qui faisait des appels aux dons pour...
Je vois.
Et qui avait deux livres, un pour l'accouchement à domicile, donc qui m'a beaucoup servi parce que même si c'était pas à domicile, c'était pour expliquer comment ça allait se passer l'accouchement à Lucas, parce qu'il fallait quand même que je le prépare un petit peu à ça, que maman allait peut-être avoir mal, que ouais. voilà, tu vois.
Non, c'est clair.
Et après, effectivement, et dans ce livre-là, elle met les deux enfants, ça.
C'est trop bien. Parce donc, que je crois qu'il n'y en a pas, hein. Enfin,
déjà trouver un livre où il met des enfants enceintes, c'est super rare, mais alors là, avec deux, moi, j'ai trouvé le Graal, quoi. Ouais, non, j'ai beaucoup expliqué à Lucas. En fait, je pense que c'est important quand même de prévenir l'enfant à l'avance. Oui. Je pense pas quand t'as un petit frère ou une petite sœur, il y a beaucoup de choses à préparer, comme tu dis, surtout à leur âge, ça se fait naturellement. Par contre, c'est vrai que si tu veux faire un accouchement avec eux ou faire du co-allaitement, je pense que c'est quand même assez important de prévenir à l'avance quand même de ce qui va se passer, quoi.
Je pense qu'ils comprennent, surtout à leur âge, de nos enfants, ils sont quand même très visuels. Je pense qu'ils avaient besoin de visualiser un peu le truc.
Voilà, donc j'avais ce livre et je lui expliquais, voilà, il faudra téter, t'inquiète pas, tu pourras aussi, mais il faudra, les premiers jours, il faudra qu'elle soit la première, voilà, enfin, donc pas mal expliquer, dialoguer avec ton enfant, et après, savoir faire la part des choses entre les conseils des professionnels et après faire...
Oui, parce voilà, que c'est ce que j'allais, c'est ce que j'ai oublié de te demander d'ailleurs, est-ce que tu as fait appel à une consultante en lactation par exemple ou pas ?
Non, non, j'ai pas ressenti le besoin, mais par contre, j'ai eu mon gynécologue qui m'a dit faut absolument arrêter, vous allez faire une couche, fausse couche si vous continuez d'allaiter. Un deuxième gynécologue qui m'a dit pareil, que j'allais avoir un enfant prématuré à cause des contractions. Et après, des pédiatres qui m'ont dit que j'allais à mon enfant, bah, Loane, du coup, n'aurait pas assez, qu'elle allait avoir des problèmes de croissance, qu'il fallait que je complémente. Voilà. Donc, tout ça, c'est des choses de médecin, de pédiatre, de gynécologue. Alors, voilà, j'ai eu une grossesse parfaite. Je n'ai pas eu de saignement. J'ai accouché à 38 semaines, mais juste comme Luca, donc pas de prématurité. Oui. Loane a très, très bien grossi. Voilà. Ce qu'il y a, c'est que, voilà, comme dit, c'est des professionnels qui sont peut-être doués pour accoucher, pour faire des échographies et me donner des vaccins, mais qui ne connaissent pas grand-chose en allaitement.
Ouais.
Donc, vraiment, on a la chance de nos jours d'avoir quand même des sources fiables. Je dis pas qu'il faut croire le Doctissimo, quoi.
Non, c'est
mais
clair.
Mais il y a, voilà, c'est-à-dire qu'il faut pas dire les médecins n'y connaissent rien. Moi, j'ai vu sur Doctissimo et Facebook, voilà, c'est pas ça. Mais il y a des choses comme la Leche League qui sont quand même des ressources fiables.
Oui.
Il y a l'OMS, il y a Kelly Mom qui sont des bonnes ressources. C'est des sources fiables et qui sont, à mon avis, tu peux t'informer, mais 10 fois mieux qu'un médecin lambda.
Ouais, moi c'est marrant parce que mes go-to c'était toi et Aïda. C'est marrant. Hein. Et vous avez un parcours tous les deux assez similaire et c'est. Je trouvais que c'était plus intéressant de vous demander à vous en tant que maman expat qui allait à travers l'allaitement plus qu'une conseillère en lactation qui allait essayer de me pousser à allaiter pendant X mois ou n'importe qui, tu vois.
Après, une conseillère en lactation n'est pas non plus censée normalement pousser à l'extrême. Après, voilà, c'est un peu comme, je pense, comme tout ce qui est psychologue ou tout ça. C'est-à-dire qu'il faut
trouver la perle. C'est
voilà, faut trouver celle qui match, quoi. Ouais. Si tu as une qui te met une pression dingue pour que tu fasses absolument un allaitement, que tu sais que l'enfant sèvre naturellement à 7 ans, que ça ne te convient pas, non, ça ne va pas. Mais après, il y en a aussi qui sont juste là pour t'épauler et mettre. Enfin, voilà, t'écouter, mettre une bonne mise en place de l'allaitement. Ouais. Et voilà.
Non,
c'est vrai que c'est pas facile, surtout quand t'es expat, effectivement. Il y a certains pays, il n'y en a pas beaucoup.
Ou ça ne parle pas la bonne langue. Et moi, par exemple, je me rappelle systématiquement, à chaque fois que je suis allée voir. Enfin, tu sais, en tout cas, nous, aux États-Unis, quand tu accouches, tu as une conseillère en lactation qui vient te voir dans ta chambre.
Mm-hmm.
Et je me rappelle, pour Pierre, j'en avais vu deux autres. Et systématiquement, et je pense que. On peut avoir des complexes dans notre vie, mais celui-là, j'ai jamais cru que j'allais en avoir un. C'est sur la taille des tétons. Moi, à chaque fois, ici, je ne sais pas ce qu'il en est pour d'autres dans d'autres pays, mais les conseillères en lactation, à chaque fois, ont porté un jugement sur mes seins. Et apparemment, ce n'est pas qu'à moi. C'est genre, oh, vous avez... je sais qu'à Charlotte, par exemple, ils lui ont dit...
Vous avez les tétons.
Moi, ils m'ont dit, oh, disons que même la pédiatre, je me rappelle, même la pédiatre d'Alice m'a dit, oh, bah, je comprends que vous ayez mal vu la taille de vos tétons. Je me dis, mais laissez mes tétons tranquilles. Et c'est apparemment, fou. À Charlotte, donc sa conseillère à lactation à l'hôpital lui a dit, oh, mais vous, vos tétons sont parfaits pour allaiter. Je me dis, c'est pas juste.
Non, je sais pas. J'ai jamais vu de conseillère en lactation.
Donc, si on peut arrêter de créer un complexe ouais, sur la taille des tétons des gens, ce serait quand même pas mal.
C'est fou, ça.
Mais je te jure.
Mais tu vois, c'est un truc que j'aimerais beaucoup faire, moi, par exemple.
Ouais.
C'est que moi, je réfléchis beaucoup à l'après. C'est-à-dire que j'ai pas envie d'envoyer les enfants à la crèche. J'aimerais bien faire un... En tout cas, au début du homeschooling.
Mmh.
Et du coup, je réfléchis souvent à ce que je pourrais faire plus tard. J'ai pas trop forcément envie de reprendre une activité en entreprise.
En marketing.
Ouais, qui fait que bah, je reviendrai certainement. En gros, tu reviens le soir pour coucher les enfants et tu pars après le petit-déj, quoi. Tu les vois pas. Et j'aimerais bien me réorienter. Et c'est vrai que tout ce qui est maternité, doula ou tout ça m'intéresse. Et l'allaitement, pareil.
Ouais.
Et par exemple, moi, conseillère en lactation, c'est un truc qui me vaudrait, quoi.
Ah bah, je pense que tu as l'expérience et les mots, en tout cas, pour même à distance, ouais, pour aider.
Ouais, donc, après, c'est compliqué. Tu sais, je comprends aussi pourquoi il n'y en a pas beaucoup. C'est-à-dire que en plus, c'est pas du tout internationalisé. C'est-à-dire, en France, pour être les conseillères IBC, je sais même pas comment on
appelle. Moi, je sais pas comment on dit.
Je sais pas comment t'es censé prononcer le truc. En fait, t'es obligé d'avoir un diplôme de santé. Hein. C'est-à-dire que tu peux être infirmière, sage-femme ou tout ça. Et après, c'est une formation derrière.
Ouais, donc tu t'en sors pas.
Donc, donc clairement, il y en a pas beaucoup. Ouais. Parce que, quelqu'un qui a déjà fait des études dans la médecine, il a pas forcément, surtout s'il a un boulot.
Ouais, de se lancer là-dedans. Ouais.
Et, alors qu'aux États-Unis, par exemple, t'as les deux. T'as vraiment les professionnels de lactation qui sont des personnels de santé, mais après tu peux faire quelqu'un de lambda, et ça c'est un truc, faudrait que je regarde, tu vois, est-ce que je pourrais faire ça par rapport avec en ligne avec les États-Unis par exemple, pour avoir un diplôme ou quelque chose, quoi, une reconnaissance, et faire quelque chose là-dedans, ouais. Ou là, ou tout ça,
Bah écoute, ça me permet de faire une belle transition, donc qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite, que tu te redécouvres une vocation professionnelle.
Ouais, et surtout que ça puisse être possible. C'est vrai que tu l'as vu avec ton épisode. Je sais plus la maman, psychomotricienne.
Ah, Marie. Ouais.
Voilà, tout ce qui est lié forcément, et en même temps, heureusement, hein, mais tout ce qui est lié à médecine ou maternité, toutes ces choses-là. Après, quand t'es étranger, reconnaissance des diplômes d'un pays à l'autre, même si le diplôme, est-ce que un étranger peut pratiquer, ça complique toujours les choses, quoi.
Oui, mais comme nous le montre Marie, c'est pas infaisable.
Après, chaque pays n'est pas pareil, quoi.
Ah non, c'est clair. Mais bon, je pense, je sais pas si en Corée t'aurais suffisamment de communautés françaises pour pouvoir. Tu vas te créer ton propre réseau.
Non, une communauté française, je ne sais pas laquelle. Après, expat, oui, mais juste les Français, j'avais une cliente tous les ans, quoi.
C'est vrai. J'avais oublié l'aspect aussi allaitement en France. On part un peu de loin aussi. Donc,
Oui, en plus, ouais, c'est ça.
Et donc, du coup, tu avais quand même assez répondu rapidement à cette question, mais je te la pose. Comment tu pourrais gérer un allaitement avec 3 enfants, du coup?
Je pense de la même manière, en fait. Enfin, ce serait pas plus compliqué que ça.
Ouais, donc du coup, tu t'imagines un scénario ou pas?
Alors, honnêtement, je pense que tu vois, ce serait très différent si t'es 3 enfants, dont 2 jumeaux, dont 2 en bas âge. Mais dans mon parcours, si 3e enfant il y avait, ça voudrait dire forcément que les 2 sont plus âgés, quoi. Donc,
Ouais.
Donc ça se ferait naturellement avec les 2 avec qui tu peux communiquer et dire pas maintenant, plus tard.
C'est vrai, ce serait peut-être plus simple du coup si le cas est un petit peu plus
juste. Moi honnêtement, tu vois, certains me disent oh là là, c'est génial, enfin c'est fou que tu collaites et tout ça, mais moi par contre souvent j'ai en tête quand j'avais 2 enfants sains, mais si j'avais des jumeaux que je devais allaiter.
Ouais.
Ça par contre ça je pense, parce que là tu peux pas dire attends j'allaite ton frère ou ta sœur, quoi, ou attends tu me fais mal, tu peux pas t'aider. Enfin voilà.
Ouais.
Tu y a pas de communication possible. Ça par contre les mamans qui allaitent des jumeaux, mais chapeau. Ouais. Quand t'as les 2 qui se réveillent la nuit et les 2 qui veulent téter.
Mais je crois que Pascaline en Turquie a allaité ses 2 jumeaux, si je dis pas de bêtises.
Non, ah, mais c'est possible.
Non, mais c'est beaucoup de boulot, quoi. Déjà, ouais.
Ouais.
Oui, parce que je vois pas la position. Enfin, je vois la position, mais je sais pas comment la tenir. Encore une fois, moi, j'étais déjà en support technique avec mes jambes, en plus de mes 2 bras. Pour un enfant, je sais pas comment tu fais avec 2, quoi. Clairement. Et on parle pas des triplés, hein, je veux dire.
je sais pas s'il y a quand même beaucoup de mamans qui font. Ouais, à mon avis, peut-être qu'ils font de l'allaitement, mais à mon avis.
Tu tires ton nez et tu.
Un allaitement exclusif, à mon avis, il y en a pas beaucoup.
Ouais, ça doit être compliqué.
Ouais. Mais franchement, je lui donne une médaille.
Ah ouais, bon, beaucoup de courage. Mais déjà, toi, je t'en donne une sacrée parce que t'es quand même bien courageuse.
Non, mais franchement, je te jure, je pense que t'as certaines mamans qui ont peut-être un allaitement avec un seul enfant, mais s'il y a un frein de langue ou quelque chose, qui doivent certainement galérer beaucoup plus que moi, quoi.
Ah ben, je pense que, mais encore une fois, je pense que t'as quand même beaucoup de chance d'avoir des enfants assez simples. Parce que moi, entre Pierre avec son frein de langue et Alice avec son intolérance alimentaire à un truc que je mangeais ou pendant un mois j'ai pas mangé grand chose, C'était assez challenging.
Voilà. Non, franchement, du coup, quand on me dit ouais, c'est génial, bravo et tout, franchement, c'est pas de la fausse modestie, c'est juste que franchement, c'est que c'est pas compliqué et concrètement, ça aurait été compliqué pour moi, j'aurais peut-être arrêté, tu vois.
Ouais.
Je veux dire, si je continue comme ça, c'est parce que pour moi, ça me convient et au contraire, pour moi, c'est même plus facile comme ça.
Ouais.
Typiquement, quand tu mets la petite au sein et que tu as un enfant à côté qui joue, qui fait du bruit, tu peux être sûre que la petite, elle va tourner la tête, elle va s'arrêter.
C'est super relou.
Écoute, mais c'est tellement plus facile de dire « Hé, Luca, tu veux pas têter aussi ?» Oh, et ben voilà, les deux sont calmes et les deux têtes trempées.
C'est vrai, j'y ai pas pensé.
Concrètement, ouais, je me facilite la vie plus qu'autre chose, en fait. Concrètement. Non, mais c'est vrai, hein.
Mais non, mais t'as raison, c'est clair. Et puis, bon, de me dire, si t'as oublié une tétine ou quoi que ce soit, tac, t'as le néné, tac, c'est fait, quoi. Donc,
les deux n'ont jamais eu de tétine.
Ouais,
et...
ouais. Donc... Mais dans le doute, tout.
Il n'y a pas de tétine, mais tu vois, je veux dire, pour moi, je me simplifie la vie. J'ai vraiment le sentiment que j'ai choisi la voie la plus facile, en fait.
Ouais, mais je pense que l'allaitement, pour avoir fait Pierre exclusivement au tire-lait et Alice au sein, c'est quand même beaucoup plus simple directement à même l'usine.
Mais moi, le tire-lait, je pense que j'aurais pas tenu. Enfin, mais non, tu dois tirer, tu dois laver, tu dois
la vaisselle.
Conditionner, réchauffer.
Ah ouais.
Aller, enfin voilà. Après, faut te poser pour lui donner le biberon, qui est pas forcément simple. Quand tu veux aller dehors, faut préparer plein de trucs. Non, franchement, moi, sur l'allaitement, c'est
Moi, je sais que j'avais fait pour Pierre pendant 6 mois parce que c'était mon premier enfant, mais si ça avait été Alice, j'aurais pas pu. Clairement, j'aurais pas pu.
Mais, oui, c'est clair.
Mais ouais, dans tous les cas, l'alimentation des nourrissons, chacun y va de sa botte et chacun fait du bon boulot. Donc, je pense qu'on pourra conclure comme ça. En tout cas, Hélène, moi, ça m'a fait très plaisir de te reparler. J'espère qu'on se reparlera pas une troisième fois, tu me diras, blague à part. Ou alors, cas échéant, on peut espacer de quelques années, s'il te plaît.
Ouais, la vasectomie, il va falloir vraiment...
C'est un sujet. Mon mari m'a répondu « My body, my choice », donc je pense que le sujet est clos. mais j'espère que le tien sera un petit peu plus ouvert d'esprit.
Ah non, mais il est carrément pour, c'est juste que faut qu'il bouge,
le rendez-vous, d'accord.
Ouais.
Écoute, on parlera lors de charge mentale de prendre les rendez-vous médicaux une autre fois, mais...
Là, il y aurait trop de choses à dire.
Non, mais écoute, moi, je te remercie.
J'ai déjà trois enfants.
Moi, j'évite de lui dire ça parce que ça le met de mauvaise humeur. Mais en tout cas, je te remercie énormément pour ton témoignage. Et écoute, je te souhaite une très bonne fin de journée dans le futur. En Corée du Sud.
Merci.
Salut. Voilà pour cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à le partager autour de vous ou de nous laisser un commentaire et une évaluation sur votre plateforme préférée. Nous, on vous souhaite une excellente semaine et on vous retrouve dans 2 semaines pour un prochain épisode. Ciao.